Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons aussi d'être ici, de pouvoir être ici pour adorer et pour apporter à Dieu la reconnaissance que nous lui devons pour ce qu'il l'a fait par sa grâce en nous tous. Et pas seulement en nous, mais en beaucoup sur toute la terre, il a fait de grandes choses. Et j'ai seulement la question, est-ce que les frères et sœurs comprennent l'allemand? Est-ce que quelqu'un peut traduire? Personne? Vous ne parlez pas l'allemand? Un peu? Frère, est-ce que tu connais le français? Parce que les frères et sœurs sont ici du Zaïre. Je vais faire cette remarque que c'est, ça a été les plus grandes réunions que depuis 1969 j'ai vécu. À l'époque, en 69, c'était en Inde où plusieurs milliers de personnes étaient venues et maintenant c'était au Zaïre. Et le frère Rousse vient de dire que mercredi prochain, Dieu voulant, de nouveau, j'entreprendrai un vol en Afrique, cette fois-ci pas au Zaïre, mais en Tanzanie, au Kenya, au Malawi et l'Afrique du Sud. Et j'espère que Dieu de nouveau bénira, de nouveau, et qu'il parlera à son peuple. Si partout les choses pouvaient être comme elles sont au Zaïre, alors je serais alors très satisfait. Et je peux vous dire, tout dépend de la manière avec laquelle on est reçu. Et comment est-ce qu'on ressent les choses? Si avec critique et avec retenue, on est reçu, alors tout le ministère est comme paralysé. Mais quand on est reçu sincèrement, avec l'amour de Dieu, alors on est dans la liberté de l'esprit. Et le ministère se déploie simplement tout à fait autrement. Et on remarque que la parole de Dieu est reçue avec empressement et elle coule comme du haut des cieux directement et les gens sont bénis. Frère Schmidt, depuis plusieurs mois, m'a manqué et je voulais le dire ici aujourd'hui. Et maintenant, le frère Rousse, au moins, a remis des salutations de sa part. C'est simplement ainsi, quand quelqu'un manque, alors il manque. N'est-ce pas? C'est ainsi. Et nous souhaiterions que tous ressentent ainsi dans leur cœur cette appartenance ensemble, d'appartenir ensemble. On ressent cela, qu'on appartient ensemble, qu'on est lié, ce lien avec le Seigneur et les gens avec les autres, et que de tout notre cœur, nous ne sommes pas tranquilles quand quelqu'un manque. Quand quelqu'un n'est pas là, parce que alors ça veut dire que quelqu'un manque. Ça devrait être ainsi. Et je crois que cela vient. Ce n'est plus loin dans le futur, mais ces sentiments-là sont très proches. Dans l'Église primitive, ils étaient tous les jours ensemble, étaient un seul cœur, une seule âme, se rassemblaient tous les jours, avaient des réunions tous les jours. Ils prenaient leur repas ensemble dans la simplicité et se sont donnés à la prière et au Seigneur pour qu'il puisse les bénir et les utiliser. Et la chose unique, la seule chose qui nous reste encore à faire sur terre, c'est qu'à la fin, nous puissions faire exactement ce qu'ils ont fait au commencement. De se donner entièrement à Dieu et ce lien de tout notre cœur avec Dieu et les uns avec les autres, et que ainsi, par l'Esprit de Dieu, un réveil est lieu pour que tous soient vivifiés, puissent être vivifiés. Vous savez que Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a formé Adam et il était allongé là. Il avait tous ses membres de son corps, mais il était allongé là. Il ne pouvait pas encore marcher, il ne pouvait pas encore écouter, il ne pouvait pas encore voir. Et ensuite, Dieu le Seigneur lui a soufflé le souffle de vie. Et alors, il est devenu une âme vivante. Maintenant, les oreilles pouvaient entendre, les yeux pouvaient voir, la bouche pouvait parler. Maintenant, tout fonctionnait dans ce corps qui déjà était formé et était allongé là parce qu'il avait été appelé à l'existence par le souffle de vie. C'est comme ça aussi avec le corps de Christ. Il ne peut que fonctionner quand l'Esprit de Dieu vient sur lui et le remplit. Et de notre Seigneur, il est dit, alors qu'il était ensemble avec ses disciples après la résurrection, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. La même parole qui est écrite dans Genèse, qu'il a soufflé l'Esprit de vie, est écrit aussi dans Jean, le chapitre 20. Il souffla sur eux et a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et avec cette expression, alors, un mandat divin puissant a été lié. Et nous croyons que Dieu accordera une effusion puissante de son Saint-Esprit. Ça ne suffit pas qu'en tant que membres, nous existions, nous soyons là, nous devons être vivifiés. À quoi est-ce que les meilleurs membres, les beaux membres dans le plus beau corps servent si tout est sans vie et que les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas et la bouche ne parle pas? Et il y a un mot pour cela, c'est mort. Mais Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants parce que Dieu crée la vie. Toute vie vient de Dieu. Il y a un psalmiste qui dit, toute vie vient de toi. Tout ce qui vit vient de toi. Et il y a un cantique qui aussi, dans ses paroles, dans plusieurs couplets, l'a repris. Et nous voulons que cette vie divine, cette vie de Dieu, en tous ceux qui sont devenus par la nouvelle naissance, participant à la nouvelle naissance, à la nature divine, que cette vie de Dieu puisse se découler, se couler sur eux, et que cette vie de Dieu puisse produire son effet par eux. Et que donc ce n'est plus toi et moi, mais c'est Dieu qui, par sa grâce, fait tout en tous et par tous. Quand nous lisons les Saintes Écritures, notre cœur est touché. Et exactement, nous savons que les sages et les intelligents, ces choses sont restées cachées aux sages et aux intelligents, ces choses que Dieu a révélées aux enfants. Les sages et les intelligents de ce monde passent à côté de ce que Dieu dans la simplicité fait. Et là, nous pensons à cette prédication puissante, Dieu révélé dans la simplicité. Les hommes doivent toujours faire quelque chose qui est à entendre ta voix et sur lesquelles on peut raconter beaucoup de choses. Non, Dieu fait les choses les plus puissantes, les choses les plus grandes, mais dans une telle simplicité que les hommes trébuchent là-dessus. Et nous avons, dans une cassette, nous l'avons dit déjà il n'y a pas longtemps ici, dans une cassette aussi, ils vinrent à notre Seigneur. Et on dit, mais toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu, avec cela, tu blasphèmes Dieu, et nous avons le droit de te lapider. Qu'est-ce que c'était? Il était homme. Il mangeait, il buvait, il priait, il pleurait, il souffrait. Il était un homme, trouvé dans une paille, dans une étape, comme un homme. Tout ce qui était, il s'est dépouillé de tout ce qui était Dieu et tout ce qui était semblable à Dieu. Il a apparu dans une forme humaine. Et pour que nous qui étions perdus à l'image de Dieu, nous soyons sauvés et ramenés dans l'état, dans la position de fils et filles de Dieu. Ça, c'est le sommet de tout l'évangile. Sur ces choses, il n'y a rien à philosopher, mais à croire pour que Dieu en nous puisse agir et produire ces choses, vous savez, dans le passé, et pas seulement depuis avant-hier, mais depuis le commencement de l'histoire de l'Église. Au moins deux groupes existaient. Les uns qui croyaient de tout leur cœur, qui n'interprétaient pas, qui ne formulaient rien, qui s'étaient rien fixé, mais qui de tout leur cœur croyaient et par le Saint-Esprit étaient vraiment conduits. Les autres ont commencé à se fixer des choses. Ils se sont fixés la doctrine de la Trinité, de la divinité, des confessions de foi. Ils se sont eux-mêmes fixés et ils sont restés comme congelés jusqu'à aujourd'hui encore. Quand on lit l'histoire de l'Église, et parfois cela nous ôte la bonne humeur. Quand on lit que des choses qui des centaines d'années, des siècles plus tard ont été formulées, qui ensuite sont appelées apostoliques, confession de foi apostolique, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et je pense là à la formulation de la confession de foi dans l'année 325 à Nicée, qui ensuite, en 383 à Chalcedone, a été changée dans la forme dans laquelle elle est aujourd'hui. Et cette pensée m'est venue. Partout, il est dit, il est parlé de la profession de foi apostolique. Aucun apôtre et aucun acte des apôtres nous parle de ce qui s'est passé 300 ans plus tard. Et ces hommes-là ont eu le culot et ont appelé ont donné à leur formulation un tampon apostolique. Ça, c'est une criminalité religieuse. C'est un crime. Ça n'a pas le droit de faire. Un jour, si Dieu m'aide, je vais aussi devoir écrire là-dessus. Et je vais aller dans le public, on ne peut plus tolérer ces choses. Et celui qui est informé de ce qui se passe dans le marché religieux, il voit comment est-ce que la séduction a lieu partout. Et ce sont tous des hommes parmi eux qui ont le droit d'entendre la vérité et qui doit leur apporter la vérité. Sûrement. Seulement quelqu'un qui lui-même a reconnu la vérité, qui a expérimenté la vérité et en qui la vérité est devenue une réalité. La vérité est devenue une réalité. Mais nous ne voulons pas continuer à parler de ces choses. Cela m'est venu dans la pensée seulement parce que justement, sur la divinité, justement, beaucoup de choses sont dites et nous avons ensemble lu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jean 1, verset 1. Et la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Ici, toute la chose est exprimée. Au commencement était la parole. Et ensuite, la parole était avec Dieu. Ici, on voyait deux choses. On voyait Dieu et on voyait la parole révélée dans le Fils de Dieu. Et ensuite, il est dit, et la parole était Dieu. Mais les gens ne reviennent pas à cette expression, mais s'arrêtent au milieu du verset. Mais nous, nous voulons considérer de tout notre cœur chaque verset et croire tel que c'est écrit et prêcher cela tel que c'est écrit. Et c'est ce qui est merveilleux. La parole qui est devenue chair était Dieu. Et nous avons aucune obligation, nous ne sommes pas liés à une profession de foi, à une direction de foi. Nous n'avons pas prêté un serment d'une manière constitutionnelle dans une dénomination. Mais nous sommes liés à la parole de Dieu, à la croire de tout notre cœur, sans notre vouloir, comme le dit les Écritures. Et si les Écritures disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons Amen. Et si l'Écriture dit qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est le Fils de David, alors nous disons Amen. Et si il est écrit qu'aujourd'hui Christ vous est né, le Seigneur, alors nous le croyons que Christ est le Seigneur. Nous croyons chaque parole telle qu'elle est écrite. Telle qu'elle est écrite. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous ne nous mettrons pas d'œillets. Mais nous allons regarder autour de nous et nous allons nous orienter dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Il y a beaucoup de versets qui peuvent être lus. Ici, par exemple, il est dit au verset 10, Jean 1, verset 10, il est parlé de cette lumière. Concernant cette lumière, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par lui. Est-ce que nous comprenons que ce Yahvé là, qui au commencement de la plénitude de lumière de Dieu, qui était invisible en tant que le Logos, en tant que la parole, en tant que celui qui agissait, en tant que la partie de Dieu qui agissait, qui parlait dans le jardin d'Éden, il a marché. Le même est descendu sur la montagne de Sinaï. Le même a parlé sur la montagne des Oliviers. Mais dans l'Ancien Testament, dans un corps spirituel, mais dans le Nouveau Testament, dans un corps de chair, mais c'est le même. Je vais encore vous lire un peu concernant cela pour que vous puissiez savoir ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Est-ce que ici il y en a deux qui ont créé le monde? Est-ce que nous avons deux créateurs? Ou bien est-ce que nous avons qu'un seul et unique créateur? Est-ce que nous avons un sauveur? Ou bien nous avons plusieurs sauveurs? Mais bien aimé, et directement après ce verset, au verset 7, il est écrit, l'apôtre Paul, ici conduit par le Saint-Esprit, il a écrit, oui, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ce n'est pas tous qui possèdent cette connaissance en allemand. Ce ne sont pas tous qui possèdent de telles connaissances. Parce que ce ne sont pas tous qui, par l'Esprit de Dieu, sont conduits dans ces choses, dans ces profondeurs, dans ces mystères profonds de Dieu. Dieu ne peut pas être expliqué. Et vous allez tout de suite voir que pour la compréhension humaine, comme ça, ce serait une contradiction pour tout de suite. Mais pour l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de contradiction dans ces choses. Mais d'abord, je vais vous lire dans Apocalypse, le chapitre 4, au verset 9. Oui, peut-être déjà la deuxième partie du verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La deuxième partie du verset 8. Comparez, s'il vous plaît, cette parole avec 1 Corinthiens 8, le verset 6, que nous venons de lire. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ici, nous avons deux expressions, Dieu et Seigneur. Le mot Dieu en relation avec Père et le mot Seigneur en relation avec le Fils. Ici, dans l'Apocalypse, les deux mots sont redonnés ensemble. Et il est dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Chaque esprit qui est de Dieu confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul, n'est-ce pas, l'a écrit aux Corinthiens. Et ici, il nous a dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce que je dois poser cette question? Quel Seigneur? Nous savons qui est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Nous attendons qui? Qui attendons-nous? Qui reviendra? Mais bien aimé, qui reviendra? Nous devons comprendre ça une fois pour toutes, que Dieu s'est dépouillé de sa divinité et est devenu homme pour nous ramener dans la position divine perdue par la chute. C'est l'objectif de la révélation de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Pardon. Et cette révélation, nous l'estimons, nous ne pouvons pas l'estimer assez. Ensuite, au verset 9, Apocalypse 4, au verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit de toute éternité, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit de toute éternité et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Est-ce que cela n'est pas la même parole? Est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu apporterait une confusion dans les Saintes Écritures? Chaque livre d'homme est confus, est comme les pensées humaines sont confondues. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a aucune confusion. Mais c'est la pleine vérité par l'Esprit de Dieu révélée pour tous ceux qui veulent recevoir cette clarté divine dans la parole de Dieu. Maintenant, venons aux contradictions que les incrédules peut-être trouveraient s'il cherchait bien. Mais cette contradiction par les hommes est anéantie en ce que Dieu leur parle. Nous laissons Dieu leur parler. Dans Jean chapitre 1, au verset 18, il est écrit, nous avons tous lu, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Maintenant, je vais vous lire que au moins de 70 personnes, il a été vu en une seule fois. Et à cela, Moïse et Aaron s'ajoutent et plusieurs autres personnes. Et ensuite, vous allez voir pourquoi est-ce que les choses sont écrites ainsi, telles qu'ils sont écrits. Je vous lis dans Exode, le chapitre 24, verset 9. Exode, chapitre 24, verset 9. Ici, retenez ici Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, jamais. Ici, lisons dans Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. En allemand, ils regardèrent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les élus, en allemand, sur les élus des enfants d'Israël. Non, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. En allemand, ils n'étendirent point sa main contre les élus. Qu'est-ce que vous dites de cela ici? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a dit? Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Ici, dans ce contexte des choses, le mot « élu » est écrit. Pas « élite », mais « élu ». Les élus des enfants d'Israël, ce sont ceux-là qui avaient le droit de monter sur la montagne. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils voyaient Dieu, ils virent Dieu, ils regardaient Dieu dans la forme de révélation dans laquelle, de manière visible, plus tard, ou bien déjà même auparavant, et toujours de nouveau, ils se révélaient. D'une manière particulière, dans Exode chapitre 19, alors qu'il était descendu pour là-bas annoncer la loi, publier la loi, proclamer la loi. C'était Dieu le Seigneur, l'éternel Dieu. Ils ne virent pas seulement un esprit, mais ils regardaient, ils voyaient celui et aussi même ce qui était sous ses pieds. Donc, ils voyaient une forme, pas seulement un esprit, pas seulement un nuage. Ici, il est parlé de ses pieds. Je vais vous relire ça ici. Le verset 10. Ils regardaient le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc, ils voyaient la révélation, la forme visible de la révélation du Dieu invisible. Il voyait le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui s'était révélé, qui se révélait. Mais c'était pas tous qui, mais pas tout le peuple d'Israël, mais seulement les élus. Ici, il est écrit, il n'étendit point sa main contre les élus des enfants d'Israël. Non, ils virent Dieu et ils mangèrent et buvaient. Verset 14, verset 11. Cette révélation de Dieu n'est pas pour les appelés et les cœurs divisés, mais cette révélation est pour les élus de Dieu. Ceux-là qui ont le droit de voir Dieu en esprit et qui s'assied et qui mangent et boivent avec le Dieu Tout-Puissant, tel qu'autrefois il était ici. Vous direz, oui, mais comment est-ce que cela peut être possible? Mais bien aimé, comment est-ce que cela peut se passer? Ça, c'est à partir à Dieu de le faire. Et si dans ce temps, nous comptons vraiment aux élus, alors nous verrons Dieu. Et nous allons nous asseoir à sa table, manger et boire. Et nous allons nous nourrir, nous réjouir aux dons riches de sa maison. Dieu a une élection qui est pour beaucoup comme une qui semble pour beaucoup être un mot étranger, particulièrement dans ce temps. Cela a été placé nouvellement sur le chandelier, l'élection. Mais nous chantons, il y a, c'est une vieille parole qui existe déjà depuis longtemps. Ici nous voyons déjà auprès des Israélites, cette parole élection a été utilisée. Pas ici élite, mais élu. Il n'étendit point sa main contre les élus des enfants d'Israël. Donc, aussi certain que parmi le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, il y a eu des élus et aussi des appelés. C'est ainsi que c'est certain aussi que dans l'église de la Nouvelle Alliance, c'est la même chose. Et nous devons ici faire la différence des choses et de nouveau aussi pouvoir rassembler les choses ensemble, telles qu'elles appartiennent. D'un côté, faire la différence des choses. Que l'un n'a pas besoin de voir ce que l'autre peut voir, mais d'un autre côté, voir ces choses ensemble, que Dieu en Christ s'est révélé. Mais bien aimé, alors que autrefois, Philippe, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, disait à notre Seigneur, viens à notre Seigneur, lui qui avait tant parlé du Père, donc faisant référence à Jésus, et donc maintenant faisant référence à Philippe, montre-nous le Père, il a demandé. Et notre Seigneur a dit, profondément attristé, je suis si longtemps avec vous ensemble, comment est-ce que tu peux dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous remarquez que pour la prédication, les deux côtés appartiennent? Que d'un côté, à 100%, nous reconnaissons, nous croyons et nous prêchons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est né dans ce monde. Il a été emmailloté dans la paille et trouvé dans un berceau le huitième jour circoncis selon la loi, et qu'il a vécu sur cette terre, et que comme un homme, mais pas seulement comme un homme, mais il était homme, 100% homme. Mais c'était pas tout. Dans cette enveloppe humaine à 100% homme, il y avait quelque chose d'éternel, il y avait quelque chose de divin, il y avait quelque chose de puissant, comme je le disais déjà tout à l'heure. Et c'est justement dans ce corps mortel, aussi son corps était mortel, il devait, n'est-ce pas, pour nous souffrir la mort, tous, pour nous tous. Et en lui, Satan n'avait aucun droit. C'est peut-être raison que la mort non plus n'a pas eu de droit. Parce qu'il était né sans péché. Et sans péché, il a vécu sur cette terre. Mais la question est, comment est-ce qu'il est mort? Si aujourd'hui je dirais qu'il est mort sans péché, alors je dirais la vérité. Et si je disais qu'il était chargé de péché, c'est-à-dire que le péché du monde entier a été placé sur lui, et que c'est avec ce péché-là qu'il est allé sur la croix. Et ça, alors, c'est aussi la vérité à 100% avec les péchés. Mais alors, il est dit que notre condamnation est tombée sur lui. Il a porté nos péchés et il a porté notre douleur. Et il est allé avec nos péchés sur la croix et il s'est laissé clouer. Et c'est sur la croix qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de fois nous avons déjà dit cela? C'était ton cri, mon cri, car par le péché, nous avions été séparés de Dieu. Nous étions abandonnés de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et là, il a pris ta place et ma place, et il l'a porté sur lui. Et quand ton péché et mon péché ont été placés sur lui, là, la séparation de Dieu a été parfaite. Et alors il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment où nos péchés ont été placés sur lui. Et quand la lance a pénétré son côté et que le sang s'est répandu, alors c'est accompli. Ce que Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 écrit, verset 19, que Dieu, à ce moment-là bien précis, était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. À un moment, abandonné, et au prochain moment, nous furent, par l'offrande de son corps, déjà réconciliés avec Dieu. Selon Colossiens 1, verset 21, quand le sang de la réconciliation sur la croix à Golgotha fut répandu, mais bien aimé, il s'agit toujours que nous puissions ne pas comme ça rationaliser les vérités bibliques et comme nous voulons et selon notre propre mesure les interpréter et les placer dans la parole, mais que nous puissions comprendre chaque parole de Dieu et comprendre les vérités et selon la Bible, selon les tel que Dieu les voit dans les pensées de Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que nous sommes sûrs de bien comprendre tout. Si on voit les choses, comprend les choses comme Dieu les voit et les comprend. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse bénir ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu être là. Ça n'a pas d'importance où ils se trouvent. Le Seigneur connaît les siens. Et la parole de solution que j'ai reçu depuis le commencement, c'est reconnaissez que le Seigneur conduit d'une manière merveilleuse ceux qui lui appartiennent. Ces rachetés qui sont en lui rachetés, qui sont en lui sanctifiés, qui sont en lui élus, qui sont en lui déjà achevés, perfectionnés. Car ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Et si parfois, que ce soit que nous soyons adolescents ou alors âgés, que nous remarquons déjà, ou bien alors à un âge, nous reconnaissons dans notre corps que nous vieillissons et que nous avons plus de 15 ou bien 16 ou 27 ans et que nous commençons peut-être même à arriver à l'âge où nous soupirons à cause de l'état de notre corps. Mais que dans, au milieu de ce soupir, que nous puissions une fois savoir que nous allons déposer ce corps et que nous allons être ramenés dans notre jeunesse. Ça, vous pouvez me le croire. Pas seulement parce que frère Branham l'a dit. Et alors qu'il racontait qu'il était au paradis, qu'il avait été ravi au paradis et qu'il a vu des millions venir vers lui qui étaient jeunes. Le 1 janvier 81, alors que je suis sorti de mon corps et qu'avec tous les transformés, tous les changés dans leur corps, j'ai vu l'enlèvement. J'ai vécu l'enlèvement, je les ai vus tous autour de moi jeunes. Et pour ma compréhension, ils n'avaient pas 19 ou 18 ans. Ils avaient plutôt 16 et 17 ans. Je les avais tous devant moi. Ça, c'est la pure vérité. Devant le Dieu Tout-Puissant, qui un jour jugera les vivants et les morts, devant lequel tu te tiendras. Je les ai tous vus, clair comme je vous vois ici assis devant moi. Je les ai vus de cette manière. Alors que à ma droite, je regardais. Tous étaient jeunes, mais tous avaient différents cheveux. Blond, noir, comme c'est dans le naturel. Chacun aura la sorte de chevelure. Mais tous étaient jeunes. Et tous étaient transfigurés sur leur visage. Mes bien-aimés avaient des visages transfigurés. Nous attendons cela. Que ce vieux corps soit déposé. Et nous pouvons opérer ce corps et faire ce que vous voulez. Ce corps est livré à la mort. Mais comme nous l'avons dit hier soir, nous avons, n'est-ce pas, une maison bâtie par Dieu. Un corps de résurrection qui ne pourra jamais être malade, qui ne vieillit pas, qui n'est pas malade, qui n'a aucune douleur. Un corps, oh, qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et pour cela, nous avons la grâce, de nous compter. D'appartenir, car il ne va pas détendre son bras contre ses élus. Non, il va détendre son bras sur eux et les bénir et leur dire, asseyez-vous à ma table, mangez et buvez dans ma présence et regardez ma gloire. Et regardez ce que j'ai préparé pour vous. Notre Dieu est un grand Dieu. Donc, les deux choses sont vraies. Jamais quelqu'un a vu Dieu. C'est vrai. Mais les élus l'ont vu de cette d'une manière, donc dans une forme visible, telle qu'il s'est révélé. Alléluia. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de grand, de précieux, de ce que nous pouvons résumer ça ensemble et comprendre que à la fin de l'Église du Nouveau Testament, nous pouvons voir ces choses. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu un temps dans lequel l'Ancien et le Nouveau Testament, un temps dans lequel les révélations divines de Dieu ont été prêchées de cette manière, comme dans notre temps? Nous sommes un peuple privilégié, une race élue, et nous devrions de tout notre cœur pour cela remercier Dieu, le louer et élever son saint nom et lui donner l'honneur. Et ça, nous pouvons sûrement le faire après, quand le frère Rousse, s'il le veut, après qu'il aura dit quelque chose, s'il le veut, pensez à moi dans vos prières, le Seigneur, qu'il vous bénisse et qu'il soit avec vous tous. Amen. Je crois que nous n'avons plus rien besoin de dire, car assez de choses ont été dites. Si nous recevons tout cela dans notre cœur et nous croyons tout cela de tout notre cœur, alors cela suffit déjà pour adorer Dieu et louer, élever son Saint-Nom. Et c'est ainsi réellement, cela m'a inondé le cœur. Ses élus vont comprendre, vont être prêts à faire chaque pas qu'il leur est dit, et nous sommes ce qu'il leur est dit de faire. Et nous sommes reconnaissants et heureux de ce que, en tant que des gens qui sont indignes à ses yeux, en tant que dignes, en tant que, oui, nous avons été trouvés. Nous sommes heureux de ce que nous pouvons lui appartenir. Pas par nos mérites, mais parce que nous étions mieux que les autres. Non, au contraire. Plus mauvais que les autres, je l'ai dit le week-end dernier. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui, dans la nature extérieure, sont mieux et étaient mieux que nous. Mais c'est l'élection de Dieu. C'est son élection. C'est sa grâce de ce que nous, ici, nous avons la grâce d'être et qui nous a appelés et qui nous a révélé sa parole d'une manière si merveilleuse. Que quoique la parole a été écoutée par beaucoup, mais vous savez, ce ne sont pas tous qui écoutent le cri, ce ne sont pas tous qui comprennent l'appel. Et je voudrais, et je viens de me rappeler de ce que le frère Branham disait. Concernant donc les poules et le poulailler et l'aiglon. L'aiglon savait qu'il est un étranger parmi les canards. Et vous savez, alors que je lisais cela, ces vieilles aigles mères volaient là au-dessus du poulailler. Et elle a crié. Aucun poussin n'a compris ce cri, ce que cela voulait dire. Mais l'aiglon, il a compris l'appel de la mère. Vous savez, il a entendu. Personne ne comprendra l'appel de l'époux. Mais son épouse va prêter l'oreille et comprendre son appel. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? C'est glorieux. Il y a eu beaucoup de poussins dans le poulailler. Tous étaient là, les poulets et les poules étaient là tous. Les poulets, vous savez, est-ce que ce n'est pas un exemple merveilleux pour nos jours? Oh, comme c'est merveilleux. Vous savez, beaucoup de croyants et de communautés et d'églises et d'organisations et de dénominations, tout est présent, est là. Et l'appel, le cri de la mère aigle retentit. Et elle appelle les aiglons. Viens, détends tes ailes. Et qu'est-ce que c'est? Alors l'aiglon peut s'élever, celui qui entend l'appel, le dernier appel que Dieu fait retentir, adressé à ses élus. Dans ces jours, nous sommes si reconnaissants de ce que nous avons la grâce de suivre toutes ces choses et d'obéir. Et aussi, tous ceux qui acceptent le Seigneur et qui viennent à la foi, que nous puissions aussi, que nous pouvons comme ça voir, se laisser baptiser. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons voir que Dieu travaille. Je le dis tous de nouveau. Il est écrit de toutes les langues, de tous les peuples et les nations, que ce soit jaune, noir, blanc, jaune, quoi que nous soyons, Dieu appelle ses élus de tous les pays. Et seulement ceux qui de tout leur cœur croient Dieu et sa parole vont faire le pas et vont aller et vont dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est ainsi que pour être sauvé. Et nous avons entendu parler de la parole dernièrement de l'Éthiopien. Il a cru tout de suite la parole du prophète. Il a tout de suite cru ce que Philippe lui disait. Car Philippe a parlé. Ou bien alors, lui a montré ce qui était écrit dans le prophète Ésaïe sur Christ, concernant Christ, qui viendra et qui est venu. Et qui l'a vu, ou bien qui l'a compris? Personne n'avait compris. Même un Éthiopien ne pouvait pas le comprendre. Cet Éthiopien ne pouvait pas comprendre. Mais quand quand ce qui a été dit lui a été, quand c'est un envoyé de Dieu qui lui a apporté l'évangile, c'est là que ses yeux lui ont été ouverts. Et il a dit, mais ici il y a de l'eau, qu'est-ce qui se tient en obstacle contre mon baptême? Et ensuite, alors il y a eu seulement que cette question. Si tu crois de tout ton cœur, c'est ainsi que cela soit, que cela arrive, que cela ait lieu. Il pouvait que dire, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et déjà, ils n'ont pas continué à parler. Là, le chariot s'est arrêté et il est descendu. Et ils sont entrés les deux, là où il y avait beaucoup d'eau. Et cela a été mis en pratique. Philippe l'a baptisé. Et je vais le dire, dans un cœur, là où il y a la vraie foi, où il y a la vraie foi, plus rien d'autre peut suivre que de mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul désir, c'est de mettre en pratique, de faire ce que la parole de Dieu exige. Mais seulement là où la foi dans le cœur, réellement, s'est implantée. Car la foi s'est implantée dans les vrais croyants. Et je pensais dans les années passées où les gens venaient au commencement, où le message avait été apporté. Et ils ont pas manqué, ils n'ont pas hésité, que ce soit en hiver ou bien en plein hiver. Il faisait froid. Il n'y a personne qui a hésité de se laisser baptiser. Ils ne se sont pas retenus. Ils ont été poussés à se baptiser malgré le temps de l'hiver très froid. Mais bien, frères et sœurs, cela ne doit pas être seulement quelque chose de quelques minutes ou bien quelques heures, mais ça doit demeurer en nous. Cet empressement doit demeurer en nous jusqu'à la fin. C'est ça que nous passons de la foi à la vue, à être obéissant. Cet empressement doit toujours demeurer en nous jusqu'à la fin. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse produire ces choses en nous. Et je crois de tout mon cœur que si nous restons fidèles, lui, il reste fidèle. Même quand parfois nous sommes infidèles et faibles et trébuchons, il reste malgré tout fidèle. Et si nous devions trébucher et tomber, il est prêt à nous relever. Il est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire et l'adoration. Je suis très reconnaissant à Dieu aussi pour ce matin, pour sa sainte et précieuse parole. C'était si merveilleux. Chaque parole que nous avons lue, si vraiment nous sommes croyants, alors c'est en nous quelque chose de merveilleux. Alors c'est quelque chose de précieux. C'est notre nourriture. Cela nous fortifie. Nous croyons la parole, nous l'acceptons, nous la recevons, nous la laissons, nous lui permettons de nous parler. Nous la laissons nous parler. Pas seulement que nous l'écoutions ici dans l'église et que nous sortions et que nous l'avions déjà oublié. Mais cette parole produit en nous quelque chose. Nous aimons le Seigneur. Oui, si nous l'aimons, alors nous aimons aussi sa parole. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ainsi que c'est écrit. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'élever son Saint-Nom. Nous voulons maintenant l'adorer et louer son Saint-Nom. Lèvons-nous pour le faire. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions de la plénitude de notre cœur, aussi pour cet après-midi. Nous te remercions de ce que tu as accordé ta grâce. Nous te remercions de ce que tu as accordé ta grâce. C'est ce matin, pardon, pas l'après-midi, ce matin. Du commencement jusqu'à la fin. Dans notre vie, tu veux être présent et rester présent. Car à quoi est-ce que ça nous sert d'avoir fait un commencement si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin? Seigneur, nous te demandons de la profondeur de notre cœur que tu puisses nous accorder à tous ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde à mes frères et mes sœurs ta grâce. Accorde-nous à tous ta grâce. Secours-nous dans ce déroulement du temps de fixer nos yeux sur toi et sur toi seul. Et que nous puissions te voir en tant que celui qui nous conduit, en tant que celui qui nous dirige. Seigneur, en tant que notre berger, nous te remercions de ce que tu ne nous as pas abandonné et que tu ne nous as pas délaissé dans ces jours, de ce que tu as pensé à nous. Seigneur, nous te remercions de ce que tu travailles encore et que tu appelles encore tes élus. Tu les appelles à venir à toi. Oh Seigneur, bientôt tu vas revenir. Bientôt tu vas les prendre dans ta gloire. Nous pouvons regarder à toi. Oh Seigneur, alléluia, et d'étendre nos ailes vers les ailes de notre aigle. Nous te remercions pour ces heures bénies et nous te donnons à toi l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, puissamment tu t'es révélé dans notre temps, dans nos jours, et tu as parlé puissamment à nos cœurs et tu es encore en train de travailler. Loué soit ton Saint-Nom. Tu appelles les tiens à sortir. Oh Seigneur, ce qui pourrait être impossible à nos yeux, cela est possible à toi. Seigneur, tous ceux que tu t'es élu avant même la fondation du monde, aucun d'eux ne manquera. Que ton nom soit loué. Nous te remercions Seigneur, ensemble, pour ta sainte et précieuse parole. Et Seigneur, nous te demandons aussi ensemble que tu puisses bénir notre frère alors qu'il entreprendra maintenant encore un vol pour l'Afrique. Que tu puisses lui donner d'être un témoin de ta résurrection, un témoin de ta vérité, un témoin de ta parole. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec lui et que tu puisses aller devant lui. Oh Seigneur Dieu, nous te demandons de tout notre cœur que ta puissance et que ton esprit l'accompagnent pas à pas, à chaque instant. Ça, c'est notre demande, c'est notre prière sincère et nos requêtes ce matin. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont seuls, que le diable a séduit, a trompé, a égaré. Oh Seigneur, nous te prions pour eux. Que selon ta parole, les œuvres du diable soient brisées dans leur vie, telles que ta parole le témoigne, que tu as brisé les œuvres du diable. Oh Seigneur Dieu, tu es le vainqueur de Golgotha, alléluia. À ton nom soit l'honneur, la louange et l'adoration et la gloire. Oh, tu connais nos cœurs et nos pensées. En tant qu'Église, nous te louons, nous t'exaltons. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, en tant que le véritable, en tant que le fidèle, en tant que le Dieu éternel. Alléluia. Loué soit ton Saint-Nom. Nous t'adorons et louons ta présence. Tu es très proche, Seigneur. Tu es parmi nous, tu es en nous. Loué soit ton merveilleux nom, Seigneur. Que tu puisses continuer à être avec nous et avec tous ceux que tu appelleras encore dans ces jours, car nos frères et sœurs de Zaïre, du Zaïre, que tu puisses les bénir et que tu puisses bénir le frère de la Belgique, que tu puisses bénir tous ceux qui sont ici et tous ceux qui ne peuvent pas être ici ce matin. Je te demande, Seigneur, que tu puisses le faire par ta grâce. Nous t'adorons. Loué et exalté sois-tu. Ta présence, Seigneur, tu es proche. Tu es présent. Alléluia. Reçois ce qui te revient de plein droit. Sois parmi nous. Sois celui qui agit, qui parle. Loué soit ton Saint-Nom. Alléluia. Nous donnons la gloire à Jésus et annonçons son amour et proclamons son amour. Et proclamons son amour glorieux. Amen.